2015, à Luc en Diois, nous accueillons Monsieur Boris Pahor. Nous aurons le plaisir et l'honneur de l'accueillir parce que Monsieur Boris Pahor est un écrivain d'origine slovène qui vit à Trieste, juste à la frontière avec la Slovénie, frontière avec l'ex-Yougoslavie. Il est né en 1913. Donc, si on fait le calcul, il est déjà très âgé, mais n'aime pas beaucoup qu'on lui parle de son âge. Il connaît Dee, puisqu'on l'a découvert en France seulement voici un peu plus de 20 ans, et déjà, il a été invité à Dee, il y a 20 ans, lors du festival Est-Ouest. Et en 2013, il était invité d'honneur du festival dont le thème était Trieste. Il n'a pas pu s'y rendre pour raison de santé, ce que l'on comprend aisément. Donc Boris Pahor est quelqu'un qui peut s'exercer dans deux dimensions à la fois. À la fois, c'est un écrivain, un véritable écrivain, qui s'exprime dans une très belle langue. D'ailleurs, j'espère que vous apprécierez les extraits que j'ai choisis pour vous. Mais en même temps, c'est aussi quelqu'un, un témoin du siècle passé, témoin assez tragique, puisqu'il a vécu très concrètement tous les errements du dernier siècle. Boris Pahor, c'est l'homme qui a dit trois fois non. Non aux trois totalitarismes, le fascisme, le nazisme et ensuite le communisme. Et c'est également un homme qui en a payé les frais, puisqu'il sera interné au camp du Struthof en Alsace, qu'il a largement contribué à faire connaître en France et qui est devenu depuis Mémorial européen de la résistance. Donc, à ce sujet, il y aura trois jours, des événements sur trois jours à Luc en Diois. Le jeudi sera plus spécialement consacré aux scolaires parce qu'il est important, enfin pour tous les déportés d'ailleurs, il est très important de transmettre cette mémoire, non pas comme ça pour rien, mais ils ont le souci que ce qu'ils ont vécu ne se reproduise plus. Et ils ont surtout le souci très grand de s'adresser à la jeunesse. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois que ces témoignages, enfin ces derniers témoins qui nous restent sont importants. La dernière fois, nous avions parlé donc du camp. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance et de la difficulté à dire, de la nécessité de nommer le camp, dire ce qui s'est passé pour que jamais cela ne revienne. Et donc, pour Boris Pahor, notre écrivain slovène, lui va résister en disant, en parlant, en écrivant. Donc, comment dire après le camp? Comment dire afin que les hommes sachent et se prémunissent contre le retour de l'horreur? Témoigner encore alors que cette épreuve serait indicible, c'est toute la question. Face à ce qu'on ne peut concevoir, est-ce qu'une transmission est possible entre l'obligation à dire et l'incapacité à dire? Alors, au risque de me répéter, cette expérience n'est pas propre au camp, elle n'appartient pas au passé, mais elle est actuelle et peut-être future, hélas. Donc, je vais vous lire un extrait de Pèlerin parmi les ombres qui décrit justement cette difficulté de raconter ce qui pourtant doit l'être pour que cela ne revienne pas. Donc, c'est la visite dans le camp. Boris Pahor revient au camp qu'il va visiter, mêlé aux autres visiteurs, avec sa petite bagnole, comme il dit. Voici son texte, des extraits. Je suis dans un cimetière silencieux. Je n'ai rien de commun avec les gens qui sortent par la porte grillagée et qui, sous peu, détailleront les événements et morcelleront les minutes. Ici se trouve le poste de garde d'un monde anéanti, qui s'étend à perte de vue et qui ne peut rencontrer nulle part le monde des humains, qui n'a aucun point commun avec lui. Dans la foule, une voix de femme a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une voix d'homme a répondu « Les fours !» Tout autour, les gens se sont levés sur la pointe des pieds pour voir les cendres et les morceaux d'os dans les pots. Et lui dit « Les fours !» Et elle « Les pauvres !» Des questions et des réponses si courtes auraient pu être pleines d'un sens absolu, indicible, alors que sa remarque me fait penser à la plainte de celle qui a vu passer un chat sous une voiture. Effectivement, comment dire quand le langage a été tué dans les camps à Auschwitz et ailleurs? La langue, l'enfant Boris l'avait une première fois perdue à Trieste. Un petit écolier contraint d'héberger en lui des accents étrangers, ceux de l'oppresseur fasciste. Sa langue slovène était interdite. Malheur à qui la parlait dans la rue, malheur à qui la parlait à l'école. Ce sont des violences inaugurales, des premières humiliations dans les années 20, mais qui ont donné naissance à des textes absolument superbes. Par exemple, je vous recommande toujours dans Arrêt sur le Ponte Vecchio, Le Papillon, l'histoire d'une petite fille qui va malencontreusement parler slovène à l'école et dont le maître italien, fasciste, va la prendre et la suspendre au porte-manteau par ses tresses. Il y a aussi un autre texte très beau, Un bûcher sur le port. Boris Pahor, 7 ans, qui assiste à l'incendie de la Maison de la Culture. Mais je vais faire appel à un autre texte, celui de Charlotte Delbo, une autre résistante, écrivain, qui lui répondrait comme un écho. Donc Charlotte Delbo a écrit particulièrement 3 textes, Aucune de nous ne reviendra, Mesure de nos jours, et je ne sais plus le nom du 3e. Donc elle écrivait, je ne suis pas vivante, je suis morte à Auschwitz, et personne ne le voit, car le meurtre continue au-delà du camp. C'est une sorte de fracture interne qui va cisailler tout lien entre le monde concentrationnaire et celui de l'après. Voici ce que écrit Charlotte Delbo après Auschwitz. Elle qui ne possède plus que des mots cadavres, une cohorte de mots qui ne voudraient plus rien dire. Tous leurs mots sont faux. Ils disent « j'ai peur, j'ai froid, j'ai soif, j'ai mal ». Comme si ces mots-là n'avaient pas le moindre poids. Et un autre déporté, Georges Simperin, dans L'écriture ou la vie, va écrire « On peut tout dire de cette expérience, le langage contient tout. » Mais il poursuit « Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement, quitte à ne pas s'en servir, à prolonger la mort, à la faire revivre sans cesse dans les plis et replis du récit. » À n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens, mortellement. Effectivement, pour tous les traumatismes, tout, je dis bien tous les traumatismes, pas uniquement celui du camp, pour dire encore faudrait-il quelqu'un qui vous écoute. Et là, Semprin, Georges Semprin, met en cause la capacité à entrer en résonance émotionnelle avec le récit que ferait le rescapé. Il aurait fallu, dit-il, patience, émotion, compassion, rigueur. En fait, ce qu'il lit dans le regard de ses libérateurs, les Américains, les trois soldats américains qui sont en train de libérer le camp de Buchenwald, il dit « Le doute me vint dès ce premier instant. Cette première rencontre avec des hommes d'avant, du dehors, venus de la vie. Avoir le regard épouvanté, presque hostile, méfiant du moins, des trois officiers. » Dans un très beau roman qui s'appelle « Printemps difficile », Boris Paor va décrire justement la rencontre entre donc le déporté et Arlette, sa jeune infirmière. Printemps difficile, mais nous en reparlerons ultérieurement. Donc, pour l'instant, la question est comment est-il possible d'en arriver là? Comment ça fonctionne, une entreprise totalitaire? Comment ça marche? Alors, par la violence, bien sûr, ou par la ruse. Par la violence. Pour survivre à un cataclysme, il faut se couper des émotions, ne pas laisser les images atteindre son cœur, et devenir, ce que disait Boris Paor, une caméra qu'il filme sans rien ressentir. Il écrit « La peur a paralysé tout mon système sensitif jusqu'aux terminaisons les plus fines. » La peur, je crois qu'il ne s'agit pas de la peur, ce serait plutôt ou toute autre chose de plus terrible. Il s'agirait plutôt de terreur, parce qu'il va dire un peu plus loin, il va parler de panique écervelée qui se tenait en embuscade et procédait de l'impression d'être perdu au milieu de la masse traînante, informe et vulnérable des déportés. Ici, le processus de robotisation est pleinement opérationnel, il est pleinement accompli. Et l'humanité elle-même devient superflue, elle n'est plus que bêtude, obsession. Donc, les hommes sont réduits à l'impuissance, aussi bien lorsqu'on pend l'un des leurs, que lorsque dans la nuit, on va exécuter et brûler les corps, souples, pleins de vie et pleins de sève, de jeunes filles faites pour être aimées et donner la vie. Boris Pahor écrit, « Eros, ce sont des jeunes filles, des résistantes vosgiennes, c'est à la toute fin de la guerre. Elles sont arrêtées, amenées dans des camions et exécutées une à une dans le camp. Nous en reparlerons peut-être. Et il les évoque aussi dans le printemps difficile. Donc il écrit à ce moment-là, « Eros et la mort étaient rassemblés de façon grossière et unique. Prisonniers de nos corps desséchés dans des baraques en bois, nous avions le sentiment fou d'être nés de mères anéanties par le feu, et l'absurdité de l'existence humaine était liée à la virilité mornée devant la cheminée couronnée d'une sanglante tunique. » Et voilà. Tandis qu'au revir, le revir c'est l'endroit où on emmenait ceux qui étaient les plus malades et qui allaient mourir. Donc tandis qu'au revir, la pensée évalue les quatre bouts de pain de celui qui va mourir, et il suppute déjà que ces quatre bouts de pain que ne mangera pas le moribond va leur permettre à eux de vivre. Ils calmeront les brûlures de la faim et prolongeront leur existence. Et Boris Pahor a une phrase très forte qu'il répète souvent, qu'il a écrite aussi, « Nous vivions du pain des morts ». Nous le mangions, nous nous en nourrissions. Oui, nous le mangions, nous le mangions. Alors, tout à l'heure, je disais que je parlais de la violence qui va arriver, parvenir à soumettre l'homme. Mais il y a une autre technique plus insidieuse. J'avais parlé aussi de ruse. de ruse ou de un processus que les psys commencent à bien connaître, que l'on appelle la perversion. Perversion souvent narcissique. Et là, j'insiste une fois de plus, la perversion à l'échelle d'une nation utilise les mêmes phénomènes, les mêmes processus que la perversion à l'usage individuel, familial, dans le couple, dans la famille, etc. Et que l'une va se nourrir de l'autre, d'ailleurs. Donc, la perversion, d'abord, va s'en prendre à la langue. La perversion, par exemple, totalitaire, là, ceux qui ont lu 1984 d'Orwell, roman tout à fait visionnaire, quand il parle de sa novlangue, une nouvelle langue. La novlangue est propre aux dictatures qui fabriquent un monde sur mesure, un monde de clones, mu par une pensée unique. La dictature avance masquée, car elle doit emporter l'adhésion des victimes. Surtout, il ne faut pas oublier que certaines dérives la préparent en sourdine. La violence ou la ruse, la séduction. Une séduction, non pas une séduction faite de charme, mais une séduction perverse. Ainsi, certaines sociétés vont utiliser le terreau de cette perversion. C'est une psychologue qui s'appelle Alice Miller, qui peut-être la première a fait le lien entre, par exemple, le nazisme et un traité d'éducation qui, à l'époque, vraiment avait cours et était très très utilisé dans les familles. Un traité d'éducation qui disait que, entre autres, je cite, « Il faut se rendre maître de l'âme de l'enfant pour toujours. » Une éducation par la coercition, et les braves gens sont souvent un peu aveugles, ils l'utilisaient sans se poser de questions, et il y avait un tel aveuglement que même, par exemple, notre illustre Freud, Sigmund Freud, quand il a écrit un texte qui était censé être une description de la psychose, avec c'est le fameux président Schreber, n'a jamais parlé qu'en fait, le président Schreber, qui apparemment était fou, en plus il parlait aux oiseaux, donc ce président Schreber qui apparemment était fou, psychotique, disait-on à l'époque, en fait son père était le même qui avait écrit ce traité d'éducation tout à fait machiavélique par lequel on se rendait maître de l'âme de l'enfant pour toujours. Et dans les dictatures, on retrouve cette perversion du langage, quelque chose de sinistre, quelque chose de ricanant. Par exemple, si on voit les phrases qui étaient marquées au fronton des camps et sous lesquelles passaient les déportés en courant. Par exemple, « Arbeit macht frei »,« Le travail rend libre »,« Jedem seinen Recht »,« À chacun son dû ».« À chacun son dû », c'est une autre version de « Tu l'as bien mérité des parents maltraitants ». Ou n'importe quoi, le violeur qui viole une femme, qui dit « mais de toute façon, elle l'a bien cherché, etc. » Alors, ces phrases sont invoquées par les criminels, qu'ils soient ou non de guerre, voilà, bah oui, ainsi que les violeurs et les parents barbares. Mais ce qui est grave, c'est que la perversion est si accomplie que celui qui l'a subie va lui-même la relayer en l'intériorisant. En effet, les rescapés des cataclysmes ont en partage cette sensation qu'il n'existe plus de mots sur les lieux du désastre. Il y a meurtre du langage et souvent, pas toujours, ils vont accomplir le dernier acte de l'emprise totalitaire, c'est-à-dire si le corps a survécu, ils vont se suicider, ils vont eux-mêmes accomplir la destruction. On pense par exemple à Primo Levi qui s'est jeté du haut d'un escalier dans sa maison. À Turin, je crois. On pense à d'autres. Jean Améry aussi, qui s'est suicidé. Paul Celan, un grand poète, qui s'est suicidé. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui.